Eh bien, bonjour, merci d'être là avec nous en ce vendredi matin. Donc, on a une passionnante table ronde qui nous attend. On va parler de la mise en récit de l'histoire. C'est une table ronde en partenariat avec le comité d'histoire régionale. Et on a un joli plateau d'auteurs et de spécialistes avec nous. Je vais commencer par Isabelle Fournier, honneur aux dames, qui a cofondé la Mission Expo il y a un an. À peu près,
oui, c'est ça.
Voilà, qui fait des supports pédagogiques et touristiques, notamment pour les enfants, pour le scolaire. Vous allez nous raconter un petit peu tout ça. Comment est-ce que l'idée de la table ronde, c'est comment est-ce qu'on peut se réapproprier l'histoire pour pouvoir en parler. Et ce qui est chouette dans cette table ronde, c'est qu'on a à la fois des spécialistes et on a à la fois aussi des auteurs qui, eux, vont se réapproprier l'histoire pour donner corps à leur récit. Tout au bout, Stéphane Pribilski, qui a signé la série Origine. On en est au tome 2, le tome 3 arrive. Lui, il va nous parler Seconde Guerre mondiale et nazis. Donc, il a plein de choses à nous raconter. À ses côtés, Daniel Martinigol. Daniel Martinigol a une très jolie carrière en jeunesse, mais son actualité la plus récente, ce sont deux livres, Aventure à Guédelon, qui se déroulent dans le château de Guédelon, château qui est en train d'être construit avec les techniques du Moyen-Âge dans l'Yonne. Donc elle va nous raconter un petit peu les histoires de ses enfants. Puis il y a des voyages dans le temps, enfin, vous verrez tout cela. Voilà, et puis on verra comment est-ce qu'elle a travaillé aussi avec les gens du château. Et puis Fabien Serruti, on lui doit Le Bâtard de Cossigan, qui lui a imaginé une champagne uchronique au Moyen-Âge, avec des elfes et pas mal de féerie tout autour. Je vous propose qu'on se fasse d'abord une petite balade dans l'imaginaire des auteurs, et puis après, on ira voir Mission Expo, et on aura le regard de l'historien. Donc, voilà. Je ne vous ai pas présenté, excusez-moi, Georges Bischoff, professeur émérite d'histoire à l'Université de Strasbourg, spécialiste de la fin du Moyen-Âge, et notamment de thématiques comme la réappropriation du passé. Donc son éclairage va nous être précieux pour nous donner un autre point de vue. Peut-être on va commencer avec toi, Stéphane, ouais. Dans la série Origine. Est-ce que tu peux nous la présenter et nous expliquer un petit peu comment tu as utilisé le cadre historique et l'histoire pour mettre ton récit ?
D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai commencé donc la série Origine l'année dernière avec le château des millions d'années et la suite, donc le marteau de Thor cette année. Donc l'idée dans cette série, c'était de parler de Seconde Guerre mondiale et de guerre froide, et de surfer autour des grands thèmes, on va dire, de la rencontre du troisième type, à la manière un peu de Spielberg, mais aussi de l'univers conspirationniste d'X-Files, et de mélanger tout ça avec l'univers du nazisme et du Second Conflit mondial. L'idée dans tout ça, c'était d'essayer d'échapper à un certain nombre de clichés sur la période, d'échapper aussi à un certain nombre de clichés dans la manière de traiter le sujet, dans la manière de traiter les nazis. Je pense par exemple aux aventuriers de l'Arche perdue, où forcément, le criminel nazi, il est toujours un peu présenté de façon caricaturale. C'est un grand méchant avec un manteau noir, il doit être immédiatement identifiable. C'est l'idée aussi qu'on peut avoir dans les OSS avec Jean Dujardin, où le méchant nazi dans la pyramide, il a forcément un costume noir avec un brassard à croix gammée. Voilà, moi j'ai essayé de donner un corps, je dirais, plus historique, réel à la période, aux personnages, à avoir justement des personnages fouillés du point de vue de leur psychologie, du point de vue de leur passé. Parce que voilà, je pense que l'histoire, en tant qu'historien et collaborateur du musée de Gravelotte à côté de Metz, je dirais l'idée dans tout ça, c'est de donner, d'asseoir mon récit de science-fiction sur des faits historiques réels et d'amener le lecteur en permanence à se poser la question de savoir si ce qu'il est en train de lire, ça a vraiment eu lieu ou pas. Ou de savoir si le personnage qu'il est en train de découvrir, il a existé ou pas. Et donc forcément, dans l'histoire, se mêlent des événements réels, donc des événements historiques, et des personnages historiques également, et d'autres qui ne le sont pas. Et c'est au lecteur de le découvrir. Voilà, c'est un peu pour ça que j'utilise l'histoire. C'était l'idée d'utiliser un socle, un référent commun pour tout le monde et pour ensuite faire éventuellement diverger cette histoire, la faire dévier, mais toujours en se posant la question de savoir est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce une uchronie ou pas, est-ce de l'histoire secrète ou pas. Voilà, d'accord. C'est la question de la tétralogie. Voilà.
Nous sommes... Donc, pas la Seconde Guerre mondiale, on va passer au Moyen-Âge avec Daniel. On va se balader hein, dans les périodes historiques ce matin. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que tu as utilisé l'histoire donc, pour Aventure à Guédelon ?
Comment c'est né tout ça ? En fait, c'est né parce que mon frère habite pas très loin de Guédelon et puis un jour, ma belle-sœur et lui m'ont emmené visiter le chantier en 2004 alors qu'il y avait que la base des tours et la base des courtines, des remparts qui étaient sortis de terre. Et puis, ça m'a semblé complètement fou de visiter un chantier pareil où les gens travaillent avec les techniques du Moyen-Âge et construisent un château fort exactement comme ça se faisait au XIIIe siècle. J'ai eu l'impression, moi qui voyageais toujours vers le futur dans mes romans et qui lis de la science-fiction depuis l'âge de 11 ans, j'ai eu l'impression de faire un véritable voyage dans le temps. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti partie dans le passé. Et donc, voilà, l'idée de mettre des personnages dans un tel décor m'a tout de suite séduite, mais je n'en ai parlé absolument à personne pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'un jour, je le confie, ce petit secret, à ma belle-sœur, qui m'a dit, mais tu sais, c'est une excellente idée, je pense qu'il faut que tu parles de ça avec les gens de Guédelon. Je ne savais pas qu'elle était en relation avec les dirigeants de l'équipe de Guédelon, parce qu'elle avait des chambres d'hôtes, donc elle était investie dans le travail du tourisme de cette région. Et elle m'a permis donc de rencontrer Marilyn Martin, la directrice du chantier de Guédelon. Et j'ai parlé de ce projet, mais très, très, avec beaucoup de timidité, beaucoup de réserve, etc., à Marilyn Martin. En lui disant, personne ne vous a jamais proposé d'écrire une histoire, enfin un roman jeunesse qui se déroulerait dans le cadre de votre chantier médiéval. Et elle m'a dit non, ça ne nous est jamais arrivé, mais elle dit c'est une excellente idée. Et voilà, tout est parti de là, c'est-à-dire on a collaboré ensuite sur ce projet. Et puis voilà, j'en parlerai peut-être plus longuement après, mais Guédelon, c'est un projet qui a commencé en 1997, qui se terminera au plus tôt en 2025. Il faut savoir qu'un château fort, à l'époque, ça se construisait à peu près... Un château fort comme celui de Guédelon, qui est un tout petit château fort, en fait, d'un petit seigneur très modeste, se construisait approximativement en 7 ans. Mais là, comme ils sont avec aussi une vertu pédagogique, c'est-à-dire que les ouvriers s'arrêtent de travailler à chaque fois que quelqu'un devant eux leur demande comment... Et pourquoi ils font ça? Évidemment, ça va perdurer longtemps dans le temps. Et puis, c'est tant mieux, parce que ça vaut vraiment le coup d'aller visiter ce chantier.
Fabien, pour ta champagne uchronique, comment est-ce que tu as travaillé avec ce matériau historique?
Moi, j'ai la chance donc d'avoir fait des études d'histoire et d'avoir eu l'agrégation dans cette matière. Et j'ai pu mélanger finalement mon travail et ma passion pour l'imaginaire. Moi aussi, dès l'âge de 11 ans, j'ai plongé dans soit la science-fiction, soit la fantasy. Et j'ai adoré ça. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est... au lieu, ce qui se fait la plupart du temps en fantasy, d'avoir un monde imaginaire dans lequel on amène des éléments médiévaux, j'ai préféré faire l'inverse, c'est-à-dire notre monde médiéval, dans lequel on transforme les éléments que nous, on considère comme des légendes en choses et en êtres et en pouvoirs bien réels. Et en fait, toute la saga tourne autour de cette question... de la réalité ou non des sources qui nous sont parvenues, puisque une bonne partie du livre est écrite 5 siècles plus tard par un lointain descendant du héros qui a découvert les écrits de son ancêtre, écrits qui semblent indiquer qu'un certain nombre d'éléments légendaires, que ce soit des races ou que ce soit des rituels ou druidiques ou celtes qui ont pu perdurer, existait encore dans son 14e siècle à lui, alors qu'à l'évidence, l'histoire officielle n'évoque pas du tout cela. Donc toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et je rejoins Stéphane là-dessus, et c'est tout l'intérêt, et en même temps, ça donne une richesse, je trouve, phénoménale, qu'on peut retrouver aussi chez d'autres grands auteurs, enfin, chez des grands auteurs de littérature plus classique, comme Borges ou autres, ce mélange entre le vrai et l'imaginaire, et que l'on peut soit aller rechercher, si on est vraiment intéressé, on peut aller dans les livres, regarder ce qui est vrai, ce qui est faux, et si on n'est pas intéressé, eh bien, il reste l'histoire avec un petit H, l'histoire avec un petit H, qui est quand même l'essentiel de ce que j'ai cherché à faire, raconter une bonne histoire dans un cadre médiéval. J'ai eu la chance d'avoir les cours de Colette Beaune, je ne sais pas si vous connaissez Colette Beaune, qui est vraiment une grande spécialiste absolument passionnante de l'histoire médiévale, on va dire, dans ses aspects concrets. Et c'était vraiment fabuleux, et j'essaie de mon mieux de transcrire cet enseignement dans mes livres, tout en le gardant à l'arrière-plan, parce que ce n'est pas ce qui doit dominer dans un roman de ce type. Voilà.
Isabelle Fournier, quand vous faites vos supports pédagogiques, peut-être que vous pouvez nous donner la période sur laquelle vous travaillez, et puis comment, puisque l'objectif c'est à but pédagogique, hein, de raconter l'histoire, comment est-ce que vous travaillez ce matériau et comment vous faites ?
Alors, Mission Explo, c'est donc une entreprise toute jeune qui est née il y a à peu près un an et demi et qui a comme objectif d'accompagner des enseignants d'école élémentaire et leurs élèves sur les traces de l'histoire, sur les traces du passé. La première mission que l'on a créée s'appelle la mission du Poilu, puisque donc on habite à Verdun. Et donc on accompagne les enseignants dans la commémoration de la Grande Guerre avec leurs élèves. Donc c'est un projet qui dure plusieurs mois. Hein. Chaque enfant a un livre, reçoit un livre. Donc on a travaillé grâce aux partenaires avec lesquels on travaille, grâce aussi aux écrits d'historiens, pour concevoir des lectures documentaires. Donc les enfants travaillent en classe des éléments du programme. Qu'est-ce que la Grande Guerre, qui étaient les soldats, comment vivaient-ils, comment on vivait à l'arrière également. Et puis, continuent leur travail sur le champ de bataille, puisque le livre contient aussi des pages dédiées aux sites de visite. Donc on accompagne les enfants et leurs enseignants lors de leur journée de visite. D'accord. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est rendre l'histoire vivante et accessible pour les plus jeunes. Et puis les impliquer vraiment selon leur âge, selon leur capacité.
On reviendra peut-être hein, sur cet aspect jeunesse entre guillemets, ou transmission, et avec vous et avec Daniel sur la question de comment est-ce qu'on transmet, comment est-ce qu'on parle d'histoire à des jeunes. Mais je voulais poser un petit peu la question à Georges Bischoff. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette réappropriation de l'histoire par ses auteurs et par Isabelle Fournier?
Alors, je pense que je suis là pour jouer le rôle du censeur, hein, du professeur qui essaye, comment dirais-je, de défendre sa spécialité. Je vous rappelle que la mission de l'historien, ce n'est pas de raconter des histoires. C'est de travailler sur le passé, de le rendre intelligible à partir des sources que l'on possède, et bien sûr de le communiquer. Autrement dit, est-ce qu'un historien a le droit de fabriquer un récit cohérent, un récit qui puisse avoir une unité d'action, une unité de temps, une unité de lieu, avec des personnages que l'on arrive à suivre? Ça, c'est peut-être le rôle de la fiction ou le rôle de la reconstitution. Alors, la grosse question que je me pose est de savoir comment le matériau que traite l'historien, qui aboutit à des exposés parfois savants, souvent très pédants et généralement parfaitement ennuyeux, peut se transmettre d'une manière attrayante pour faire œuvre de pédagogie. Et c'est vraiment là un très grand problème. Un historien de profession et éventuellement un pédagogue, en tout cas ce n'est pas un romancier, et c'est bien dommage. La tentation existe évidemment. Alors, comment cela peut-il se traduire? Bien entendu, on peut très bien tirer d'une réalité observable reconstituer, expérimenter un récit. Guédelon, par exemple, le chantier de Guédelon, c'est en quelque sorte un récit en trois dimensions que l'on voit naître sur le terrain avec des acteurs, avec un lieu, etc. On peut transmettre cela à travers, comment dirais-je, une fiction ou une reconstitution d'image. C'est à cela que sert le cinéma ou la bande dessinée. En général, quand des historiens font de la bande dessinée, c'est mauvais. Quand ils inspirent des scénaristes de bande dessinée, c'est infiniment plus intéressant. Alors, je pense que l'historien peut apporter des matériaux, doit rester modeste. Je vous rappelle que le rôle qui est le sien, qui a été défini il y a déjà des siècles et des siècles, lorsque l'histoire a été formulée sous forme d'une enquête sur le passé, hein, cette règle d'or, c'est ne rien dire de faux et ne rien omettre de vrai. Alors, il faut être très modeste dans ce domaine.
Je vais rebondir sur ce que vous disiez et je voudrais revenir à notre jeunesse. Comment est-ce qu'on parle d'histoire à la jeunesse? Par exemple, Daniel, dans le château de Guédelon, tu as travaillé donc avec des artisans. Comment tu as transmis ça et voulu mettre ça en mots pour les plus jeunes? Ouais, sur l'aspect pédagogique un peu de...
Oui, c'est-à-dire qu'au départ, moi j'arrivais devant l'équipe de Guédelon avec mon étiquette d'écrivain de science-fiction. Ce n'était pas obligatoirement une bonne chose pour eux. Et la première chose que m'a dit Marine Martin, par exemple, c'est « je ne veux pas de fantastique ». Alors, sous ce mot, chacun y met des choses différentes, donc prudemment, je lui ai dit qu'est-ce que vous entendez par fantastique ? Elle m'a dit « je ne veux pas de magicien, je ne veux pas de belle jeune femme avec un hennin en haut de ma tour maîtresse qui attend un chevalier en bas en regardant au loin, etc. » Elle m'a dit « mon château, ce n'est pas ça. Mon château, c'est une entreprise quelque part archéologique. C'est bâtir pour construire, construire pour comprendre comment ça se faisait au Moyen-Âge. » Elle m'a dit « moi, je ne veux pas qu'on me mette... » »« Ce n'est pas les visiteurs, m'a-t-elle dit d'une façon catégorique. » Donc, comme j'étais tout à fait d'accord, ça tombait bien. Alors, à partir de là, on a engagé la conversation et à un moment donné, on s'est très spontanément et très vite tutoyé et elle m'a dit « il faudrait que tes gamins du 21e siècle aient des contacts avec ceux du 13e ». Je suis restée un petit peu silencieuse et puis je lui ai dit « mais tu vois ça comment ?» Elle me dit « je sais pas, une porte temporelle ». Alors donc... étant donné qu'elle m'avait dit un quart d'heure avant pas de fantastique, je me suis dit ça va, je suis bonne, on peut y aller. Et alors je lui dis oui, mais enfin bon, une porte temporelle, je vais pas quand même faire Stargate au milieu de la cour de Guédelon. Alors je lui dis il va falloir que tu m'autorises à faire quelque chose dans le cadre même du château. Elle me dit t'as une idée? Ben, je dis moi il y a un endroit que j'aime beaucoup dans le château, c'est l'escalier de la poterne. C'est l'escalier le plus étroit du château, puisqu'il était fait de façon à ce qu'un homme en armes ne puisse pas dégainer son épée pour monter à l'assaut du château, parce que c'est l'accès à l'arrière du logis seigneurial, donc c'est un petit peu la porte dérobée, en fait, par laquelle pouvait éventuellement sortir le seigneur, mais pouvait aussi éventuellement rentrer des ennemis. Donc la poterne est un endroit que je trouvais très très intéressant. Et je lui ai dit, mais moi, je verrais bien là les enfants qui descendent dans l'escalier de la poterne et qui se retrouvent au XIIIe siècle. Elle me dit, c'est pas possible. Alors je lui dis, ah bon, pourquoi? Elle me dit, parce qu'on descend jamais l'escalier de la poterne, on le monte. Alors elle me dit, le sens de la visite est fait pour le monter, parce qu'il est tellement étroit, c'est quand même un peu humide, on a peur qu'éventuellement il y ait des bousculades et que les gens tombent dans l'escalier, donc le sens de la visite est obligatoirement montant. Comme elle m'avait dit, c'est pas possible, je pensais qu'elle pensait que c'était pas possible que cet endroit-là mène vers le 13e. Ah si, c'était très possible, mais dans l'autre sens. Alors, voilà, c'est pour vous donner une idée de la collaboration que j'ai pu avoir avec Guédelon, qui était passionnante. Et donc, ben voilà, le principe était posé. À partir de là, les jeunes qui vivent au XXIe siècle pouvaient aller rencontrer ceux du XIIIe. Et c'est là que tout a commencé dans mes recherches par rapport à l'histoire, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis mariée avec un professeur d'histoire-géo. Ça aide quand même pour l'apport des renseignements et la bibliothèque. Mais j'ai commencé à fouiller un petit peu dans la documentation et je me suis rendu compte que c'était très très riche et que si je voulais transmettre ça à des enfants dans un livre pour des lecteurs de 8 à 12 ans, il fallait vraiment que je trie d'une façon très 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 sérieuse tout ce qui allait être envisagé comme phénomène, enfin comme rencontre historique, etc. Mais dès le début, il y avait une chose qui me tenait vraiment à cœur, c'était la langue. Parce que j'ai été professeur de français pendant 37 ans et demi. La dernière demi-année a été longue. Et je savais, enfin, je ne voulais absolument pas que mes jeunes héros du XXIe siècle se retrouvent en face de gamins avec lesquels ils allaient pouvoir converser du premier coup. Oh, Ziba ! Et alors, non, ça. Pour moi, c'était absolument hors de question, et c'est ça qui m'a donné peut-être le plus de travail. Écrire des dialogues avec de l'ancien français, ou tout du moins des tournures qui faisaient peut-être ancien français, de façon à ce que je n'arrête pas non plus dans la lecture mes très jeunes lecteurs. Et ça m'a demandé. Cet aspect-là historique, la langue, en fait, le langage pour moi a été le plus gros problème.
Voilà. Isabelle Fournier, quand vous travaillez, donc, alors, la Grande Guerre est une période passionnante, mais c'est une période aussi difficile avec son lot de morts et d'horreurs et de tortures. Comment est-ce que vous mettez un petit peu en scène l'histoire ? Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous ne dites pas ? Et comment vous le dites pour des jeunes ?
Alors en fait, c'est vrai qu'on fait attention à ce qu'on dit et on fait attention à ce qu'on montre. Quand on a prospecté pour aller visiter nous-mêmes les sites, on a forcément effectué un tri. Puisque quand on a entre 6 et 12 ans, on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout entendre. On n'a pas non plus modifié la réalité. On n'a pas voulu changer l'histoire. C'est vraiment l'histoire avec un grand H qu'on transmet et qu'on donne à vivre aux enfants pour qu'ils se l'approprient et pour qu'eux-mêmes deviennent acteurs. Et ce sont les adultes de demain, donc on doit aussi les impliquer. Donc comment on fait ? Déjà, par rapport aux mots qu'on a choisis, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de lectures, on a entendu beaucoup de témoignages, on a rencontré énormément de monde. Et on a réécrit nous-mêmes les textes de manière à ce qu'ils soient compréhensibles pour les enfants. Et donc c'est vrai, hein, tout à l'heure tu parlais de difficulté de langage. La difficulté, c'était de raconter toute la vérité sans la transformer. C'est pas parce qu'on parle à des enfants qu'on doit enjoliver ou rendre l'histoire moins riche, quoi. Donc il y avait ce premier travail d'écriture, de réécriture, mais sans transformer. Et puis ensuite, il y avait le choix des lieux. Donc je suis moi-même enseignante en CP, donc je sais aussi que les enfants doivent pouvoir vivre, doivent pouvoir toucher pour comprendre et pour être acteurs de leur savoir, de leur connaissance. Donc on a aussi sélectionné des lieux qui permettaient aux enfants d'entrer vraiment dans l'histoire avec leur corps. Ça, c'était pas facile non plus. On a dû aussi se heurter, comme vous le disiez tout à l'heure, aux historiens qui n'étaient pas forcément tous d'accord avec notre approche. Parce que voilà, on ne voulait pas de visite subie. On voulait pouvoir favoriser la visite en groupe, favoriser la construction du savoir en autonomie, pour après la gérer, la canaliser, mais permettre aux enfants de découvrir par eux-mêmes. Donc, comment on transmet l'histoire aux enfants comme ça, en la rendant abordable et puis aussi en leur permettant de vivre aussi leurs propres expériences et de pouvoir poser leurs propres questions. Voilà, nous, on est, quand on accompagne les enfants toute la journée, on est aussi là pour être modérateur. Et puis, ne pas les laisser repartir avec leurs angoisses, avec leurs questions. Dans les sites, on oriente aussi le regard, puisqu'on a visité les sites nous-mêmes plusieurs fois. Et puis, les pages qui sont consacrées aux visites dans le livre guident l'enfant. Donc, on sait aussi comment ils arrivent, d'où ils arrivent, et on sait vers quoi on veut les emmener. On est aussi tenu par le programme de l'école élémentaire, donc on a nous-mêmes des objectifs. Voilà.
Monsieur Bishop, je voudrais juste qu'on s'arrête sur l'histoire et les enfants, puisque là, on a la chance d'avoir deux acteurs jeunesse. Cette notion de pédagogie pour les enfants, c'est une préoccupation de l'historien ?
C'est une préoccupation du pédagogue, mais je pense qu'elle peut très bien être compatible avec une démarche d'éveil, une démarche de découverte. Or, la découverte de l'histoire, ça consiste à partir des sources, c'est-à-dire du terrain, c'est-à-dire des vestiges, c'est-à-dire éventuellement de la mémoire. La mémoire pour la guerre de 14-18, ce n'est plus possible, puisqu'il n'existe plus de témoins. En revanche, il est possible de solliciter toutes sortes de sources qui ont été mises en conserve, publiées, des images, des textes, etc. Je pense qu'il est tout à fait important de s'adresser à ce public en termes simples, en suscitant des questions, en essayant d'encadrer les réponses, en évitant toute vérité assénée et tout héroïsme totalement superflu. Alors, on n'est plus à l'époque où on conditionnait les gosses en leur racontant un récit à la Stéphane Bern. Et je crois qu'il est important de se dire que coexistent deux types d'histoires. Une histoire produit fini, prête à porter, qui est à mon avis dangereuse, parfois insignifiante. Quand il s'agit des amours de Louis XIV, ça n'a pas beaucoup d'impact, mais qui peut aussi être une histoire manipulatrice quand elle est construite, quand elle est enrobée dans tout un discours très, très valorisant. Or, je pense qu'il faut privilégier cette démarche qui consiste à fabriquer, à construire son savoir. On ne peut pas le construire tout seul, mais d'une manière, parfois contradictoire ou dialectique. Et c'est en cela que le rôle du maître est absolument essentiel.
On va revenir sur la documentation, parce que c'est une notion qui est très importante. Mais avant, Stéphane, je voulais parler un petit peu du choix, puisque là, on a parlé de la jeunesse, avec des choix à faire. Tu travailles sur la période de la Seconde Guerre mondiale, avec le régime nazi. Tout cela n'est pas anodin. tout cela est riche. Est-ce que tu as fait des choix ? Est-ce que tu as occulté certains passages ou moments temporels, ou plutôt choisi d'autres, et pour quelles raisons ?
L'univers du nazisme, c'était le côté obscur que je voulais explorer, en fait. Quand je disais tout à l'heure sortir d'un certain nombre de clichés sur la période, c'est aussi essayer de dépeindre des nazis qui soient historiquement réels, et donc justement pas des caricatures, et donc montrer que ça pouvait aussi être, et surtout d'abord des gens tout à fait normaux, venus d'horizons très divers, et certainement pas des malades mentaux, comme on essaie parfois aussi on a essayé de le dire plusieurs fois depuis, mais c'est souvent pour moi une façon assez rassurante de montrer la chose, en les montrant par exemple dans la Grande Vadrouille, dans la 7e compagnie, comme des gens complètement ridicules et un espèce de militarisme prussien caricaturé. Montrer le combattant allemand, par exemple, de cette manière-là, c'est absolument pas historique, selon moi. Pas plus que de dépeindre le criminel de guerre nazi comme un simple, entre guillemets, déséquilibré, un fou qui subitement aurait eu le pouvoir et aurait réussi ainsi à tuer des millions de gens. J'ai envie de dire, grosso modo, on ne réussit pas à atteindre le pouvoir dans un pays comme l'Allemagne, donc à l'époque qui était donc une démocratie, avec donc des institutions et un grand passé humaniste et voire avant-gardiste, on n'atteint pas le pouvoir dans un pays comme ça en étant un déséquilibré et juste un type bon à enfermer dans un asile. Donc voilà, c'était l'idée de partir de ces personnages-là et de les montrer aussi, aussi communs, entre guillemets, qui pouvaient être d'abord...
Affreusement communs.
Affreusement communs, et de montrer que voilà, que le totalitarisme et la dictature, elle peut prendre des masques aussi pour avancer dans les sociétés. Et ça c'était une volonté de raisonner jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est pas uniquement... Comment dire, il y a deux jours, j'étais en train de faire une masterclass et subitement, je me suis retrouvé à parler aux élèves de la nuit des longs couteaux. Et je me suis aperçu que, voilà, on pouvait parler de la nuit des longs couteaux et essayer de décortiquer un peu le principe. Non pas peut-être du point de vue de l'historien, mais peut-être de l'enquêteur criminel, c'est-à-dire de voir la nuit des longs couteaux comme une association de malfaiteurs, comme une alliance entre Hitler et ses comparses, en disant voilà, je vais te demander de faire un crime pour moi, mais une fois que tu auras tué, tu me seras redevable, c'est-à-dire que tu as tué, donc tu dois faire en sorte que je garde le pouvoir. Parce que si je ne garde pas le pouvoir, la personne qui me remplacera, elle te mettra en prison, elle te condamnera et elle te condamnera à mort parce que tu as tué quelqu'un. Voilà, c'est l'expliquer un peu du point de vue du chef mafieux. Et j'ai vu, par exemple, que ces jeunes lycéennes, elles étaient très réceptives sur ce type de discours et d'angle de prise de vue. Voilà, c'est de dire, dans l'histoire, on peut être un politicien et tenir ses copains, ses ministres ou quoi. On les tient en fait pas nécessairement par des alliances purement politiques, mais aussi par, pardonnez-moi, des histoires sentimentales, par des histoires d'argent, etc. Et la politique, c'est aussi ça, et c'est peut-être que ça, et c'est là où le romancier, il peut aller appuyer, il peut aller chercher cet angle-là de l'histoire plutôt que l'angle de l'histoire, socio-économique, c'est-à-dire le grand angle français, enfin la grande approche française de la matière. Voilà, c'est l'idée un peu de ce travail sur l'histoire chez moi.
Isabelle Fournier, vous voulez réagir ?
Non, mais je réagis forcément à ce que tu dis par rapport au discours qu'on tient. C'est aussi les petites histoires qui rendent l'histoire intéressante. Oui. C'est vrai que les petites histoires, les petites anecdotes, ça fait vivre. C'est vrai que du coup, ça rend l'histoire plus accessible. C'est ça qu'on fait aussi. Ouais. Tout à l'heure, vous parliez des émissions de Stéphane Bern, donc j'ai bien conscience que je marche sur des œufs, mais. N'empêche que, je ne suis pas une historienne, donc je n'ai pas vérifié exactement ce qu'il avait dit, mais je pense comprendre en tant que spectatrice, ça m'est déjà arrivé de voir ces émissions, c'est aussi par cette porte-là qu'il rentre par les petites histoires.
Non, mais l'anecdote permet de fixer les choses. C'est tout à fait respectable.
La petite histoire qui éclaire la grande. Je voudrais qu'on parle de la documentation. Fabien, quand tu fais le bâtard de Cossigan, et c'est une question qu'on posera aussi à tout le monde, c'est que souvent on ne se rend pas forcément compte de tout le travail préparatoire, entre guillemets, toute la documentation qu'il faut pour pouvoir écrire juste des récits et des aventures. Tu peux nous en parler ?
En réalité, comme je l'ai dit au tout début, j'ai la chance d'avoir conservé mes cours d'université. Et j'y puise allègrement pour trouver tous les détails nécessaires à la mise en abîme finalement de l'histoire, parce que pour nous romanciers, l'histoire est une matière première. Ce n'est pas notre finalité, évidemment. Donc ici, s'il y a une finalité liée à l'histoire, elle est d'interpeller le lecteur et lui donner peut-être envie d'aller voir la véritable histoire, d'aller voir les véritables sources, d'aller voir, d'aller creuser. Hein. Donc on peut interpeller, et c'est ça qui est intéressant dans ce qu'on fait, du côté de l'histoire avec un grand H. On peut avoir cette utilité-là. Pour les romans eux-mêmes, l'histoire est comme de l'argile. Il faut l'utiliser au service de notre petite histoire à nous, de manière à rendre cette petite histoire suffisamment intéressante. Et donc, pour revenir aux sources, mes cours me servent pour l'essentiel. Pour le reste, je vais puiser dans dans des auteurs un peu postérieurs sur la période moderne où on a quand même une société qui reste quand même très proche dans l'ensemble. Münchenblad, c'est ça ? Je me souviens plus le nom de. Pour la société moderne.
Muchablé.
Oui. Qui est un historien qui travaille sur la société également à la fois rurale et urbaine au XVIIe, XVIIIe siècle. Et on a beaucoup de points communs et ça complète un petit peu ce que je savais par ailleurs sur le Moyen-Âge. Donc, voilà. Quant au XIXe siècle, je réfléchis si j'ai d'autres sources. Non, en fait, c'est de même. Mes cours me servent vraiment énormément. J'ai vraiment bien fait de suivre ce cursus. Ce qui finalement passe dans mes romans, j'essaye d'être au plus proche de la réalité quand je décris quelque chose. Si par exemple j'ai besoin d'utiliser un tournoi, comme dans le tome 1 du Bâtard de Kosigan, le tournoi prend une grande place, là je vais faire en sorte que ce soit extrêmement proche de la réalité, le plus proche possible de la réalité historique. Par contre, je ne vais pas faire l'effort de décrire des choses qui ne rentrent pas dans mon histoire. Je ne vais pas du tout aller creuser du côté des confréries ou des sociabilités ou des choses comme ça, parce que j'en ai pas besoin pour l'histoire que je raconte. Et si je le fais, ça va ralentir mon propos et ça va déséquilibrer mon livre. Donc je peux pas essayer de présenter le Moyen-Âge. Je le présente lorsque je le rencontre, c'est-à-dire voilà, lorsque ça correspond à l'histoire que je veux raconter.
Même question sur la documentation pour Daniel et Stéphane.
Au niveau de la documentation, en ce qui me concerne, j'avais obligatoirement une date très précise, moi, puisque cette année, le chantier de Guédelon est censé être en 1248. Vous entrez à Guédelon, vous êtes en 1248 cette année. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment ancré leur projet dans une évolution du XIIIe siècle. Et j'ai commencé à chercher, parce que alors moi, pas du tout historienne, littéraire, moi, j'ai commencé à chercher par Internet. On trouve, chacun le sait, le meilleur et le pire. J'ouvre juste une parenthèse. J'ai fait une anthologie sur Jules Verne, et quand j'ai travaillé sur Jules Verne, j'ai vu que cet homme-là, il passait son temps dans des bibliothèques, etc. C'est de là qu'il a sorti ses voyages extraordinaires. Je rêverais de voir Jules Verne avec Internet. C'est pas 83 voyages extraordinaires qu'il nous ferait, ce serait je ne sais combien de centaines. L'Internet m'a permis de rebondir à droite, à gauche, etc. Donc c'est le siècle de Saint-Louis. Et Saint-Louis, pour moi, dans l'imagerie que j'avais de petite fille que j'étais, à l'époque, c'était le roi qui rend justice sous un chêne. Et j'ai commencé à chercher dans ce sens-là, par exemple, sur l'approche que pouvait avoir Louis IX de la justice. Et j'ai vu que il y avait quand même des choses qui étaient très très importantes au niveau des jugements à l'époque, et je me suis dit que je pouvais peut-être mettre quelque chose comme ça en scène dans mon premier roman que j'avais décidé de consacrer à la pierre. De fil en aiguille, j'ai cherché qui était plus ou moins contemporain. J'avais décidé qu'un de mes petits personnages de notre époque était à l'école du cirque. Donc je suis partie dans la direction des jongleurs au Moyen-Âge. Et, miracle, à un moment donné, sur Internet, je vois que le jeune poète Ruteboeuf avait commencé comme jongleur. Yes, au moins celui-là, je le connaissais. Hein, en tant que prof de français, je me suis dit, je vais me raccrocher à lui. Et voilà comment, dans Les pierres qui pleurent, vous rencontrerez à la fois Saint-Louis et Rudebeuf. Voilà, je suis restée très basique, très simple dans l'approche des deux personnages, mais ça m'a beaucoup plu. C'est un engrenage qui est épouvantable d'une certaine mesure, parce qu'on commence à chercher dans tous les sens, et là on n'écrit plus, on ne fait plus que de prendre des notes en se disant je vais pouvoir utiliser ça, ah puis il y a ça que je pourrais mettre, ah puis sa mère c'était Blanche de Castille, ah et sa femme c'était Marguerite de Provence, enfin bon il y a un moment donné où j'ai été obligée de m'arrêter en me disant je ne vais pas pouvoir mettre tout le monde, surtout dans un roman pour des enfants de 8 à 12 ans. Mais c'est passionnant d'essayer de jouer avec ça tout en respectant le plus possible une vérité historique, sans évidemment en plus sans s'étendre longuement.
À toi Stéphane.
Sur la documentation, c'est tellement important pour moi qu'à la fin de mes romans il y a des bibliographies. Donc c'est vrai que pour un roman d'aventure, d'espionnage, qui part dans des univers comme Les Aventuriers de l'Arche Perdue ou X-Files, ça peut paraître à la base incongru. On se dit, il met une bibliographie à la fin, mais pourquoi il met une bibliographie à la fin? Parce que l'univers du nazisme et de la période et l'univers conspirationniste que j'utilise et exploite, c'est un univers tellement scabreux que je ne pouvais pas imaginer ne pas mettre une bibliographie pour, je dirais, surtout asseoir ce que j'écris, ce que je décris dans la période, tant du point de vue des nazis que des liens que pouvaient avoir les États-Unis justement avec le Troisième Reich et pour ce qui s'est passé ensuite dans la guerre froide au niveau de la fuite de certains criminels de guerre. C'était tous des événements qui pour moi, enfin des questions qui étaient beaucoup trop graves pour pouvoir me passer d'une biblio qui puisse être consultable et sur laquelle je puisse moi-même me référer si jamais on me disait « Ah mais là vous dites ceci ou vous dites cela, mais est-ce que vraiment c'était comme ci ou est-ce que vraiment c'était comme ça ?» J'ai envie de dire, voilà, je veux essayer de pouvoir dire, surtout de pouvoir toujours dire, quand je dis quelque chose, j'ai au moins une référence, et surtout, je préfère surtout en avoir plusieurs, parce que c'est toujours pareil, hein, par rapport à Internet ou quoi, c'est toujours important de recouper ses sources, c'est ce que j'essaie de faire aussi en permanence, et de pouvoir les faire figurer à la fin. C'est aussi une manière, comme tu disais, de pouvoir pousser après le lecteur à aller plus loin et à se dire « Ah ben ouais, je vais peut-être aller regarder pour voir telle ou telle période, m'intéresser à tel ou tel aspect de la période ». C'est aussi une manière de dire que c'est aussi un peu un piège que je tends à mes lecteurs. Il y avait un chroniqueur qui m'avait parlé d'un chef des services secrets anglais qui se retrouve dans le marteau de Thor. Et il m'a dit, écoute, je suis allé chercher ton chef des services secrets dans Wikipédia et je ne l'ai pas trouvé. Et je lui fais, et pour cause, c'est parce que je l'ai inventé. Mais entre guillemets, c'est parce qu'il avait l'air tellement vrai qu'il a eu envie de voir finalement c'était quoi le passé de ce type. Et ben en fait, il n'existe pas. Et là, j'ai dit, c'est cool, j'ai réussi à faire ce que... c'est parce que c'est un peu le principe de base de fonctionnement de la tétralogie, voilà.
Monsieur Bischoff, c'est une question un petit peu ouverte. Avez-vous l'impression qu'un petit peu l'histoire est à la mode, qu'en ce moment, il y a une appétence un peu particulière pour l'histoire? Et est-ce qu'il y a des entreprises de réappropriation?
Alors, moi, je dirais que l'histoire bénéficie d'une mode continue, déjà très ancienne, hein, mais on assiste à un renouvellement, et un renouvellement qui se fait dans deux voies. D'une part, en explorant des histoires alternatives, en particulier l'Uchronie, qui n'est pas d'anachronisme, mais qui est une démarche, j'allais dire, presque scientifique, d'expérimentation historique en faisant varier un certain nombre de facteurs. Ainsi, par exemple, il existe une uchronie tout à fait passionnante qui imagine ce qu'aurait été la Seconde Guerre mondiale si, par exemple, De Gaulle, nommé ministre de la guerre, avait été chargé de transférer en Afrique du Nord l'ensemble des moyens dont disposait alors la France. Cette Uchronie est passionnante. Elle a été faite d'ailleurs par un grand économiste qui s'appelle Jacques Sapir. Donc c'est l'histoire contrafactuelle. Et je crois que c'est effectivement un enrichissement qui se fait sur le mode de la fiction, parce qu'il s'agit d'un récit, mais qui se fait avec des arguments historiques remarquables. Il y a un deuxième point qui consiste effectivement à aborder un passé avec, évidemment, les lunettes de notre temps. On y projette, mais tous les historiens font ça, et ils l'ont toujours fait. Un historien qui parle du passé projette, évidemment, ses propres fantasmes et ne dispose pas de beaucoup de recul. À vrai dire, un historien fait toujours un travail de réactualisation. Il s'intéresse à ce à quoi s'intéresse son temps. Donc là, je crois qu'il y a vraiment un engouement qui se traduit par une sorte d'exploration. Et le fait de recourir de plus en plus à de la réalité augmentée, à de l'image, à de l'expérimentation ne fait que enrichir la chose, avec le risque, c'est effectivement de prendre la fiction pour une réalité vraie, mais parfois la fiction est plus vraie que la réalité elle-même.
Je voulais intervenir par rapport à ça. Voilà. La réalité augmentée, justement, on s'en sert pour faire visiter le champ de bataille aux enfants. Mais pas pour faire rentrer la fiction dans le réel, pour faire rentrer la réalité d'autrefois dans la réalité d'aujourd'hui, pour donner à voir des images ou des films d'archives.
C'est indispensable. À partir du moment où il n'y a plus de mémoire vivante, on est obligé de recourir à ce genre d'artifice. C'est ce qu'on fait dans les musées, dans les mémoriaux, etc. Je pense que c'est une démarche utile, à condition de ne pas mystifier. Hein, par exemple, recoloriser une mode d'actualité de 1916, c'est à mon avis une faute parce qu'elle consiste à travestir une source.
Oui, Stéphane. Oui, juste là-dessus, parce que, donc, comme je disais tout à l'heure, je travaille aussi avec le musée de Gravelotte, donc on parle de la guerre de 1870, et c'est vrai que sur certains aspects de la reconstitution historique, on arrive parfois à gommer certains clichés, certaines idées reçues encore historiques. Notamment, je pense à la charge de cavalerie, par exemple, où quand on reconstitue une charge, ne serait-ce qu'avec une vingtaine de cavaliers sur un champ, aujourd'hui, sans le bruit, sans les explosions, sans rien, on s'aperçoit que c'est très très compliqué de maintenir en ligne et grouper des cavaliers, que de les faire évoluer, c'est encore plus compliqué, que de faire tenir les chevaux en place, c'est quasiment impossible. Et donc après, quand on analyse par exemple les grandes batailles du passé, et qu'on se réfère au tableau de charge de cavalerie du Premier Empire, on se rend compte que tout ça, entre guillemets, c'est du pipeau, et que en fait ça se passait pas comme ça, et que ne serait-ce qu'à Waterloo, les charges des cuirassiers, elles se terminaient bien souvent au pas, parce que ces braves cuirassiers, ils auraient été incapables d'affronter au galop un carré avec des baïonnettes, avec des centaines de fantassins qui leur tendaient des baïonnettes, parce que tout simplement, essayer même que le meilleur cavalier essaie de jeter un cheval sur une baïonnette et il verra ce que ça donnera. C'est-à-dire que si vous regardez un concours hippique aujourd'hui, le champion du monde, il lui arrive de tomber en saut d'obstacle, tout simplement parce que son cheval, il a fait un refus. Et on se rend compte que quand on fait de la reconstitution, il suffit que quelqu'un dans le public fasse un mouvement et subitement, ces 20 chevaux, au lieu d'aller tout droit, ils vont tourner à droite ou ils vont tourner à gauche. Et enfin voilà, c'est des choses comme ça. Je me souviens qu'à Douaumont, moi j'ai visité le fort de Douaumont et il y avait le guide qui faisait exploser un pétard dans la casemate. Et là, on se rend compte qu'avec un pétard de 14 juillet, on est sourd pendant 5 minutes. Et on s'imagine subitement à la place des personnes qui se trouvaient dans les casemates, quand ils recevaient du 420 mm sur la tête, qu'est-ce que ça pouvait bien leur faire aux survivants, hein, c'est-à-dire que on reste sourd peut-être à vie, et souvent les types perdaient la raison, parce que voilà, un bruit pareil, une fois que vous en avez entendu toute la journée, ben vous êtes fou. Et après, s'imaginer que ces gens-là pouvaient par exemple se battre comme des lions pendant des jours et et des jours, c'était des morts qui affrontaient, enfin des morts vivants qui affrontaient d'autres morts vivants, hein, des somnambules qui en affrontaient d'autres. Et, enfin voilà. C'est...
On va passer aux questions. Oui. Attendez, je vous apporte le micro.
Surtout s'il est croisé avec de l'écrit, le son posé sur des lieux ou sur de l'écrit devient extrêmement intéressant. Et en plus, le son, en fait, est rarement et pas énormément... c'est encore une matière récente en termes d'histoire. On commence seulement à vraiment à essayer de retrouver ou à sauvegarder les sons du passé. Voire à
et les
retrouver
odeurs
éventuellement
aussi.
Et les odeurs bien
alors,
sûr
voilà.
Odeurs et sons
ça.
Sont souvent ouais. absents en fait du travail d'histoire passé en tout cas qui a été fait.
On fait une histoire propre aseptisée
ouais.
Et la réalité elle est matérielle, elle est terrible, ouais. Elle est poignante
et elle est peut-être plus dans les romans du coup
ouais, je pense c'est vrai. Ouais c'est vrai.
Avec.
Oui, oui, oui.
On a le son, l'image et le son. Et le son, c'est difficile parce qu'on se le crée à partir de ce qu'on a vu dans les films éventuellement, de ce qu'on entend actuellement.
Mais
beaucoup de sons sont faits en studio et peu de sons sont des sons d'histoire qui sont reliés à des.
Au 19e siècle, il y avait beaucoup d'historiens pas véritablement romancé, mais en tout cas qui racontait l'histoire. C'est un temps où l'histoire était une matière littéraire et pas une science historique. Mmh. À partir de là, dans ces livres d'histoire du 19e siècle, on voit une histoire racontée, riche, pleine de choses. Alors parfois, effectivement, exagérée, parfois peut-être inventée, parce qu'on comblait parfois aussi les vides. Mais en tout cas extrêmement agréable, sans être pour autant ouais. aussi réelle et juste que celle qu'on peut faire aujourd'hui.
Pour rebondir sur le Versailles de Stéphane Bern, par exemple, c'est de dire, ouais, effectivement, à ce niveau-là, c'est imaginer Versailles, en fait, avec cette foule de gens hein, du temps de Louis XIV qui ne se lavaient pas. Qui faisait ses besoins souvent dans les galeries et dans les salles du château. Enfin, je pense qu'au niveau de l'odeur et du bruit que ça pouvait tout ça pouvait engendrer, à mon avis, on est très loin de la réalité romancée, enfin de la réalité romancée de la Pompadour ou de je sais plus laquelle qui se trimbalait là-dedans.
Alors d'un côté, on a du bien pire. Parce qu'effectivement, ouais. souvent, c'est du bien pire. Mais parfois, il y a aussi du bien mieux. Par exemple, on se fait souvent une représentation fausse de l'hygiène au Moyen-Âge, qui, au contraire, était tout à fait...
bien meilleur que bien qu'après.
Voilà, tout à
fait.
Encore,
Et les armures, on a récemment fait des tests en reconstruisant des armures du 15e siècle, qui étaient quand même déjà des armures assez lourdes et autres. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ces armures, on pouvait courir avec, qu'on pouvait se rouler par terre, qu'on pouvait facilement monter des échelles, qu'on pouvait faire des sauts périlleux même avec. Bon, évidemment, ils n'en faisaient pas, mais, voilà, qui peut le plus, peut le moins.
Pour la petite histoire, j'ai un de mes anciens étudiants qui s'était fabriqué une côte de maille et qui a réussi à traverser une piscine olympique, habillé en chevalier du 13e.
Il est mort.
Non, il est devenu professionnel de spectacles médiévaux. Il y a un marché.
On a le temps pour une dernière question. Oui.
Alors, c'est pas vraiment une question. C'est quelque chose que je suis en train de vivre parce que j'ai la chance de venir aux Imaginales depuis quelques années. Je ne lis pas de littérature fantastique, sauf Harry Potter, que j'ai dévoré. J'ai vu les films et tout, que j'ai trouvé un peu violent, mais les livres m'ont permis d'imaginer ces étudiants dans un monde absolument fantastique. Ça m'a fait revenir une petite fille, quoi. Alors, ce que j'aimerais vous dire, parce que j'avais hâte que... Il y a un pavillon d'histoire, un pavillon d'histoire fantastique qui sera qu'on avoue ouvertement qu'on se base sur l'histoire vraie. Parce que je crois que comme adulte, moi, ça me permettra peut-être d'aller dans ce monde fantastique, comme les enfants, parce que j'ai la chance d'avoir des petits-enfants, et ce monde fantastique va leur permettre d'aller vers la vraie histoire. Je trouve que c'est une ouverture absolument extraordinaire. autant pour les adultes que pour les enfants. Et merci beaucoup d'avoir écrit ces ouvrages, qui me fera plaisir de lire, bien sûr. Merci.
Un joli mot de la fin, hein, ouais. Je vous propose. Hein. Merci à nos invités, vous allez pouvoir les retrouver tout de suite. Merci à vous.
Merci à vous.